les podcasts de Radio Vatican.
Le roi Salman, âgé de 81 ans, est attendu en Russie ce jeudi. Il s'agit de la première visite officielle d'un souverain saoudien dans ce pays. À Riyad, l'agence officielle SPA indique que le roi répond à une invitation de Vladimir Poutine, 10 ans après une visite effectuée par le président russe en Arabie Saoudite. Les deux hommes devraient discuter de leurs relations bilatérales et des moyens de les dynamiser. Petit retour en arrière, en 1926, l'URSS fut l'un des premiers pays à reconnaître l'autorité de Ibn Saoud, qui devint le premier roi de l'Arabie Saoudite moderne. Contrainte de fermer sa représentation dans le royaume pour des questions économiques en 1938, les relations diplomatiques furent ensuite suspendues par Riyad au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le royaume wahhabite se place du côté des Américains et prend ses distances avec les communistes athées. Les tensions seront particulièrement accrues lorsque l'armée rouge envahit l'Afghanistan, pays musulman que soutiendra financièrement et en hommes l'Arabie Saoudite. Les relations diplomatiques ne seront restaurées que 10 ans plus tard, le 17 septembre 1989, grâce à une détente amorcée par le président Gorbatchev, qui lèvera par exemple les restrictions empêchant les musulmans d'Asie centrale à effectuer leur pèlerinage à la Mecque. Si de nouvelles tensions apparaissent lors du soutien russe aux Serbes de Bosnie dans les années 90, la situation s'améliore avec l'arrivée de Vladimir Poutine en 1999 au Kremlin. En dépit de leur divergences actuelles sur le conflit syrien, les deux pays dépendants de l'or noir ont trouvé une solution sur le pétrole l'an dernier. Olivier Dallage est journaliste, l'auteur de Géopolitique de l'Arabie Saoudite aux éditions Complexe. Il revient sur les relations passées et actuelles entre les deux pays.
Avant la rupture, il y a eu un retrait du consul général soviétique pour des raisons purement budgétaires. Et après, le poste n'a pas été pourvu. Et en effet, pendant la guerre froide, l'Arabie Saoudite étant complètement aligné sur les États-Unis et inversement, et ayant en horreur tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin au communisme, il n'y a pas eu de relations diplomatiques. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour qu'on voit commencer à apparaître des relations diplomatiques dans les pays voisins. Je mets à part le Koweït qui, lui, en avait depuis son indépendance. Et que l'Arabie Saoudite, à son tour, établisse des relations diplomatiques. Et il faut dire que depuis une dizaine d'années, les relations sont plutôt assez bonnes, même si l'Arabie et la Russie peuvent se trouver de côtés différents sur des problèmes régionaux, on pense en particulier à la Syrie.
Une amélioration des relations malgré des affrontements quasi directs, notamment avant de reprendre leurs relations diplomatiques en Afghanistan après l'invasion soviétique et après la reprise des relations diplomatiques lors de la guerre en Bosnie, Riyad qui ne supporte pas qu'on s'en prenne à des pays musulmans.
Tout à fait, même si le départ de Oussama Ben Laden était plus une initiative personnelle qu'organisée par le pays, ça ne retire rien au fait que l'Arabie Saoudite finançait abondamment les Moudjahidines afghans à travers le Pakistan et l'appui de la CIA. Et lorsque la guerre de Bosnie a éclaté, les Saoudiens étaient également assez présents avec leurs religieux, avec leur soutien politique et financier et idéologique auprès d'un certain nombre de combattants bosniaques. Et ça n'est pas totalement hasard si on assiste à une certaine wahhabisation d'une partie de la Bosnie depuis cette époque-là.
Vous parlez d'un rapprochement qui dure depuis une dizaine d'années. En 2003, le prince Abdallah était le premier haut responsable saoudien à venir de cette envergure, à venir à Moscou depuis 1932. Vladimir Poutine, 4 ans plus tard, vient à Riyad. Aujourd'hui, le roi Salman est à Moscou. Comment qualifier ces années de rapprochement ?
Ça s'est passé progressivement. Il y a une forme de normalisation. Et aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de déceptions qui sont habituelles des Saoudiens vis-à-vis des Américains, et tout particulièrement pendant la période Obama. De ce point de vue-là, la Russie paraît plus stable, plus cohérente, plus logique. On sait sur quoi on est d'accord, on sait sur quoi on n'est pas d'accord. Et de toute façon, les Saoudiens ont bien été obligés de prendre acte du grand retour de la Russie au Moyen-Orient à la faveur de la crise syrienne depuis 2011.
Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu sur justement ce retour de Moscou au Moyen-Orient ?
Moscou était présent au Moyen-Orient à l'époque de l'Union soviétique avec une base militaire à Aden, des facilités militaires à Tartous en Syrie, donc au Yémen et en Syrie, avec une alliance de nature militaire avec l'Irak, et progressivement tout ça s'est effondré. Et donc il était très important au début de la crise syrienne pour la Russie de rester présente. Et le fait que les Occidentaux aient snobé la Russie en pensant pouvoir se passer d'elle a très certainement contribué au jeu qui a été celui de Moscou dans les années qui ont suivi, et un jeu qui finalement est gagnant. Donc c'est plus un retour qu'une apparition de la Russie, mais avec, encore une fois, des impératifs qui ne sont pas du tout idéologiques, mais purement d'ordre géopolitique. Et donc, les Saoudiens ne peuvent pas l'ignorer. Et comme le soutien américain est aléatoire et que l'expérience montre qu'on ne peut pas se reposer entièrement sur les Américains, il ne s'agit pas de remplacer les Américains par la Russie, mais au moins d'élargir la palette. Et puis, les deux pays sont des pays pétroliers, donc ils peuvent avoir des intérêts convergents ou divergents, mais en tout cas, ils ont de quoi discuter sur le niveau des cours et la production.
On est d'ailleurs à un mois d'une nouvelle réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite est le chef de file, dont ne fait pas partie Moscou. Ces deux pays, la Russie tant l'Arabie Saoudite, qui sont dépendants économiquement de l'or noir.
C'est très important pour eux. Il ne faut pas exagérer le rôle de l'OPEP. Aujourd'hui, le pétrole qui s'exporte dans le monde, pour l'essentiel, ne vient pas des pays membres de l'OPEP. C'est ce qu'on appelle les pays NOPEP, donc ils ne font pas partie de l'OPEP. L'OPEP existe encore, elle joue un rôle, mais ça n'est certainement plus un cartel comme on a pu le dire dans les années 70 ou 80. Oui, c'est important parce que aussi bien la Russie que l'Arabie Saoudite souffrent, leur économie et donc les gens souffrent des cours déprimés qui persistent depuis maintenant assez longtemps. Et s'ils peuvent parvenir à coordonner un peu leur politique au lieu de se lancer dans une guerre commerciale, tous les deux pourraient en profiter. Et puis, il y a un autre pays producteur important dans la région, c'est l'Iran, ce qui nous amène à un volet plus politique, parce que là encore, Arabie et Russie ne sont pas du même côté, la Russie étant plus proche de l'Iran, mais il y a matière à discussion.
Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que l'Arabie Saoudite ait apporté son soutien aux discussions d'Astana sur la Syrie, alors qu'on sait que l'Arabie soutenait plutôt les opposants à Bachar al-Assad, alors que la Syrie et l'Iran, justement, soutiennent le régime de Damas?
Parce que l'Arabie Saoudite a pris acte de l'échec des insurgés qu'elle soutenait, tout simplement. Et chaque jour qui passe montre que le soutien russe a, de manière significative, permis au régime de Bachar al-Assad de reprendre une partie croissante du contrôle de son pays. Donc, plutôt que s'entêter à soutenir des mouvements et à nier la réalité, ils sont très réalistes, les Saoudiens, quand le besoin se fait sentir, et il se fait sentir, et donc ils prennent acte de cette nouvelle réalité, et ils essayent de se réinsérer dans le processus, mais cette fois-ci non pas contre les Russes, mais avec eux.
Mais qu'est-ce que l'Arabie peut y gagner?
Elle peut y gagner une influence indirecte. Bon, d'une part, la Russie est un acteur important aujourd'hui au Proche-Orient, et encore une fois, on ne peut pas ignorer un acteur important. Et deuxièmement, il y a un certain nombre d'indications qui ne sont pas publiques, mais il y a des signes et des confidences qui vont dans ce sens, que l'Arabie Saoudite a le sentiment d'être un peu dans l'impasse à la fois au Yémen et dans la tension qu'elle entretient vis-à-vis de l'Iran. Mais pour une désescalade qui ne lui fasse pas perdre la face, elle a besoin qu'on l'aide. Et de ce point de vue-là, peut-être que la Russie peut être ce tiers qui jouerait un rôle d'intermédiaire permettant et à l'Iran et à l'Arabie Saoudite une désescalade dans laquelle aucun des deux ne perdrait la face.
Certains Libanais, du Hezbollah notamment, craignent une redistribution des centres de pouvoir au Moyen-Orient, notamment avec cette visite du roi Salman en Russie. Est-ce que c'est ce vers quoi on va ?
Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à des renversements d'alliances ou à des évolutions très spectaculaires. C'est plus une inflexion. Depuis 2015 et l'arrivée du roi Salman aux affaires, enfin en tout cas sur le trône en janvier, on a assisté vraiment à une politique saoudienne extrêmement agressive, belliqueuse, clivante. Là, l'impasse dans laquelle les Saoudiens se trouvent à la fois au Yémen et vis-à-vis de l'Iran, et dans le dossier du Qatar aussi, les amène à composer avec une réalité qui ne leur plaît pas, mais qui est une réalité. Et donc, il y a des inflexions, mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des renversements d'alliances. En aucune façon, l'Iran ne laissera tomber le Hezbollah, même si les Russes le leur demandaient, ce qu'ils ne feront pas. Et donc, oui, forcément, le Hezbollah s'inquiète de tout ce qui affaiblit leurs mains. Et de ce point de vue-là, le rapprochement entre la Russie et l'Arabie Saoudite affaiblit peut-être un petit peu la position de l'Hezbollah. Mais ça ne change pas fondamentalement les cartes.
Et enfin, peut-être, quelles sont, sur un plan plus personnel, les relations entre Vladimir Poutine et le roi Salman ?
Je crois qu'il ne faut pas se faire d'idées à cet effet. Vladimir Poutine n'est pas un impulsif, n'est pas un affectif. Et c'est pas par amour du roi Salman qu'il le reçoit. C'est également une politique d'État. De plus, il sait parfaitement que le roi Salman est âgé, malade et qu'il se prépare à céder le pouvoir à son fils, Mohamed bin Salman, qui a déjà fait des voyages à Moscou. Donc c'est un investissement à long terme. Il n'y a rien à personnaliser dans ce rapport, même si bien entendu les communiqués diront le contraire et souligneront l'excellence des relations personnelles entre Vladimir Poutine et le roi Salman. Mais Poutine voit beaucoup plus loin que le roi Salman.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.